Et le journal, c'est avec vous, Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Des vaches perturbées par les lignes électriques dans des champs d'éoliennes. Certaines en meurent dans l'ouest de la France. Deux avocats portent plainte et Radio France a enquêté. Vous l'entendrez en début de journal.
Nous nous pencherons ensuite sur la possibilité pour les démissionnaires de toucher le chômage. La réforme de l'assurance chômage le permet donc à partir d'aujourd'hui. Mais c'est très très compliqué, vous le comprendrez.
La trêve hivernale débute ce vendredi 1er novembre. Fin des expulsions locatives et de la boule au ventre pour les plus précaires. Cette trêve va durer 4 mois.
Le groupe État islamique a un nouveau chef. Nous dresserons son portrait dans ce journal.
Et puis nous irons en Algérie où une forte mobilisation est annoncée ce vendredi, 65 ans après le début de la guerre d'indépendance. Après cette édition, Frédéric Seyss se demandera si l'Élysée est trop dépensier. C'est le thème de son billet politique à partir de 8h16. Des vaches qui meurent par dizaines, dont le comportement est étrange, dont la production de lait est plus faible que la normale. La faute aux éoliennes voisines, estiment leurs éleveurs, nombreux en Loire-Atlantique notamment. Deux de leurs avocats vont donc porter plainte, ils le disent à France Culture, car cette fois ils ont de nouveaux éléments qui incriminent les lignes électriques, Laetitia Chérel.
Jusqu'ici, aucune étude n'a jamais établi scientifiquement un lien entre la mort des vaches et la proximité d'équipements électriques ou d'éoliennes. Mais plusieurs agriculteurs que nous avons rencontrés ont réussi à démontrer que lorsque le courant a été coupé dans ces équipements, leurs vaches se portaient mieux et leur production de lait augmentait. C'est le cas d'Alain Crouillebois, éleveur dans l'Orne et dont le troupeau était malade. Après avoir fait déplacer à ses frais une ligne souterraine de 20 000 volts, sa production a augmenté. Même chose pour Didier Potiron, éleveur à Nozay, près de Nantes. Il a perdu plus de 300 vaches en 7 ans depuis l'installation d'un parc éolien. Et quand les éoliennes ont été en panne, 4 jours en mars 2017, sa production, là encore, a augmenté et son robot de traite en atteste. Pour Arlette Laval, ex-professeure à l'école vétérinaire de Nantes, c'est un tournant dans cette affaire.
On établit clairement un lien entre l'arrêt du fonctionnement des éoliennes et le comportement des vaches au robot, avec pour conséquence même une augmentation de la production. C'est le signe que quand les éoliennes fonctionnent, ça perturbe le comportement des vaches.
L'avocat de Didier Potiron va porter plainte contre X. Un autre avocat, Maître Laforgue, va lui aussi porter plainte pour une douzaine d'éleveurs.
Et nous reviendrons plus longuement sur cette enquête de la cellule investigation de Radio France dans le journal de 18h ce soir sur France Culture. La réforme de l'assurance chômage entre en partie en vigueur ce vendredi 1er novembre. Réforme qui ouvre un débat ce matin sur France Culture avec nos invités, car les conditions d'accès au chômage sont durcies. Il faut désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 2 dernières années pour pouvoir toucher le chômage, contre 4 mois sur 2 ans et demi auparavant. Il faut aussi justifier d'une activité pendant 6 mois minimum pour pouvoir recharger ses droits. C'était 150 heures jusqu'à présent. Dans ce journal, arrêtons-nous sur une autre mesure déclenchée ce vendredi, la possibilité pour les démissionnaires de toucher le chômage. Et là aussi, Catherine Pétillon, les conditions sont complexes.
Mieux vaut bien se renseigner avant de quitter son entreprise, car en pratique, ce n'est pas si simple. Tous les démissionnaires ne pourront pas prétendre à des allocations chômage. Il y a un certain nombre de conditions à remplir et de démarches à faire avant de démissionner pour ne pas risquer de se voir opposer un refus. Pour bénéficier de ce nouveau droit, il faudra avoir travaillé en continu dans les 5 dernières années et avoir un projet de reconversion professionnelle qui nécessite une formation ou alors passe par une création ou une reprise d'entreprise. Les étapes à suivre sont strictement définies par la loi. Il ne faut pas quitter son poste avant d'avoir été suivi par un conseiller en évolution professionnelle, lequel aide à faire un dossier. Ensuite, une commission paritaire régionale attestera que le projet est réel et sérieux. Une fois toutes ces étapes passées, il faut aller s'inscrire à Pôle emploi et demander une indemnisation. 6 mois après l'ouverture des droits, Pôle emploi vérifiera la réalité du projet et s'il n'est pas mis en œuvre, cela entraînera une suppression des allocations et une radiation pendant 4 mois. L'ensemble du processus est détaillé sur un site internet démission-reconversion.gouv.fr. Cette mesure ne concernera qu'un nombre limité de personnes. L'étude d'impact du gouvernement estime qu'il y aura entre 17 000 et 30 000 bénéficiaires par an.
C'était Catherine Pétillon pour les explications, reprise de la discussion autour de cette réforme de l'assurance chômage et plus généralement du chômage en France avec nos invités après ce journal à partir de 8h20. Au chapitre des changements de ce 1er novembre, il y a aussi ce répit pour les locataires en difficulté financière. La trêve hivernale débute aujourd'hui, elle va durer jusqu'au 1er avril. L'année dernière, près de 16 000 familles ont été expulsées de leur logement selon la Fondation Abbé Pierre, un chiffre jamais atteint auparavant. Et cette année encore, les expulsions se sont multipliées, notamment juste avant le 1er novembre, les propriétaires voulant libérer des habitations avant la trêve. Pauline Renoir a rencontré pour France Culture une mère de famille qui a évité la rue in extremis.
Samia a redouté l'expulsion jusqu'au dernier moment. Dans son studio près de la place de la Nation, où elle vit avec ses trois enfants, plus de meubles, mais des sacs et des cartons. Elle était prête à lever le camp sans savoir où aller.
Alors là, vous avez la chambre des filles avec les trois lits superposé. Et là, on a deux matelas de camping parce qu'on s'est débarrassé du lit en cas d'expulsion forcée. J'étais obligée de me débarrasser d'un maximum d'affaires. C'est vraiment le strict minimum. C'est du camping, quoi. Du camping à la maison. Et là, je suis contente. Bon, bah, on a quand même gagné une petite bataille. C'est pas la guerre. C'est la bataille, quoi, du logement. On a gagné une petite bataille sur le logement.
Mardi soir dernier, un appel de la police délivre Samia de ses angoisses. L'expulsion n'aura pas lieu. C'est en partie grâce à l'association Droit au logement qui a manifesté devant chez elle pendant plusieurs jours. La jeune femme, qui gagne à peine plus d'un SMIC, a maintenant 5 mois pour trouver un nouvel appartement. Son dossier est en attente dans plusieurs services sociaux.
On n'a aucune visibilité. La seule visibilité qu'on a, c'est le jour où on a une proposition et c'est là qu'on a quelque chose. On est très dépendant de toutes ces procédures qui sont malheureusement très dures, très difficiles à comprendre.
Le retour de l'encadrement des loyers à Paris depuis le 1er juillet donne de l'espoir aux associations pour rendre plus accessibles certains logements. Mais pour Marie Rotan de la Fondation Abbé Pierre, il faut bien plus un plan d'urgence nationale.
Un plan de 100 millions d'euros. Ces 100 millions, ça vise notamment à abonder des fonds qui viennent rembourser l'impayé de loyer aux propriétaires ou qui viennent l'indemniser lorsque l'expulsion effective n'est pas réalisée par les forces de l'ordre.
La Fondation Abbé Pierre alerte aussi sur la hausse des charges depuis un an. 5% de plus pour les propriétaires qui répercutent sur les loyers. Encore un frein dans l'accès au logement pour les plus précaires.
Ce 1er novembre sera également à la SNCF synonyme de changement pour la direction. Guillaume Pépi est remplacé par Jean-Pierre Farandou, ingénieur, rentré à la SNCF en 81. Et il aura déjà fort à faire dans les jours qui viennent, entre la réforme des retraites, les négociations sur le nouveau pacte social et les débrayages des cheminots à répétition.
Il est 8h07 sur France Culture, c'est la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal. Le groupe État islamique confirme la mort de son chef, Abou Bakr al-Baghdadi.
Oui, il a bien été tué il y a 5 jours lors d'un raid américain en Syrie. L'organisation terroriste qui s'exprimait hier via son agence de communication Hamak a aussi nommé le successeur d'al-Baghdadi. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Que sait-on de lui ?
Bien écoutez, on connaît son nom, il s'appelle donc Abou Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. C'est assez long mais on ne dira pas tout à chaque fois. Notamment, on laissera tomber le Al-Qurashi qui est là pour signaler que c'est un descendant du prophète et par conséquent qu'il a la légitimité pour diriger l'État islamique, qu'il serait donc plutôt irakien. Toujours sur son nom, il faut ajouter que c'est probablement un pseudonyme. C'est souvent le cas chez les combattants de Daesh, ça permet de brouiller les pistes et il ne faut pas oublier qu'Abou Ibrahim va rentrer immédiatement dans le top 10 des hommes les plus recherchés au monde. Alors évidemment, pas de photos, pas de selfies, on ne connaît pas sa voix. Pour l'instant, vous savez, c'est un peu un fantôme qui est là pour de la com. Il s'agit de dire au monde, notre chef a été tué, mais rien ne change, le roi est mort, vive le roi.
Et pour continuer à vivre justement, Nathanaël Charbonnier, comment le groupe État islamique fonctionne ? Comment ce nouveau chef de Daesh a-t-il été nommé ?
Eh bien, on sait déjà que c'est un groupe d'individus rassemblés dans le conseil de la Shura qui a prêté allégeance au nouveau calife. On sait que le nouveau calife al-Hashemi est celui qui va diriger la charia, c'est le juge suprême. On sait aussi que l'État islamique s'est doté d'un nouveau porte-parole parce que le précédent est mort, il s'appelle Abou Hamzan al-Qurashi, et vous voyez, on retrouve le al-Qurashi, ce qui veut dire que lui aussi fait partie d'une tribu descendant du prophète. Et puis, chose intéressante, c'est cet homme-là qui s'est exprimé hier en appelant à la vengeance. Ça montre une certaine vulnérabilité, une clandestinité du mouvement. Al-Baghdadi, l'ancien calife, s'exprimait, rarement certes, mais il s'exprimait, et c'est lui qui parlait. Or, aujourd'hui, l'État islamique demande à ses partisans de suivre un homme que personne ne connaît. L'important, c'est le symbole.
Merci beaucoup Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de France Culture pour ces précisions ce matin. Sur le terrain, en Syrie, on ne sait toujours pas ce que deviennent exactement les djihadistes de Daesh, jusque-là détenus par les Kurdes. Ces derniers ont dû quitter le nord-est du pays qu'ils occupaient et à partir d'aujourd'hui, les Turcs et leurs alliés russes débutent des patrouilles de surveillance dans le nord-est de la Syrie pour vérifier que les Kurdes sont bien partis de cette zone toujours disputée. Le Irak se donne rendez-vous aujourd'hui dans les rues d'Alger. Ce mouvement de contestation lancé au printemps dernier espère mobiliser plus qu'habituellement dans le pays pour entamer la conquête d'une nouvelle indépendance de l'Algérie. Ces mots ont une importance, 65 ans jour pour jour après le début de la guerre d'indépendance, Leïla Berhatou.
Depuis le début du mouvement de protestation, les Algériens utilisent les symboles de la guerre d'indépendance dans leurs slogans, leurs chants ou leurs pancartes. Chaque semaine, on entend des références à la bataille d'Alger ou à Ali la Pointe. Chaque semaine, les photos des 6 hommes qui ont déclenché la révolution sont brandies à bout de bras. Alors ce 1er novembre, date anniversaire du début de la guerre, que l'on nomme ici « guerre de libération », est un symbole particulier et cela devrait accentuer l'ampleur de la mobilisation. Dans la soirée, hier, des centaines de personnes étaient rassemblées dans le centre de la capitale pour demander un état civil, la libération des manifestants arrêtés et pour rejeter les élections. Au même moment, la télévision diffusait un discours du président par intérim, Abdelkader Ben Salah, où il demandait aux Algériens de faire du jour de l'élection présidentielle une grande fête et où il dénonçait ceux qui veulent empêcher les Algériens de voter le 12 décembre prochain. Depuis l'annonce de la date du scrutin, ceux qui manifestent rejettent cette élection car pour eux, les conditions de transparence ne sont pas réunies. Ce vendredi, ce sera aussi la première manifestation depuis l'annonce de la liste des personnalités qui souhaitent se présenter à l'élection présidentielle. Une liste au sein de laquelle on retrouve plusieurs anciens ministres d'Abdelaziz Bouteflika.
Au Brésil, dans la famille Bolsonaro, le fils du président fait parler de lui. Le député Eduardo Bolsonaro a jeté le trouble hier en évoquant l'éventualité de restaurer un régime répressif comme la dictature militaire entre 64 et 85. Un régime répressif au Brésil, dit-il, si la gauche se radicalise comme ce qu'il se passe selon lui au Chili actuellement. Face au tollé provoqué à la distance prise par ses alliés, il a ensuite fait marche arrière hier soir. Les manifestations, en tout cas au Chili, continuent effectivement. Hier, l'opposition de gauche n'a pas été convaincue par les arguments du président Sébastien Piñera. Le pays, rappelons-le, n'accueillera pas la COP25 en décembre prochain en raison du soulèvement de certains Chiliens depuis des semaines maintenant. Et à la place, sachez que l'Espagne se propose de reprendre l'organisation de cette COP25. En ce début du mois sans tabac, nous avons maintenant choisi de vous emmener ce matin en Autriche, où l'interdiction totale de la cigarette dans les bars et les restaurants entre en vigueur aujourd'hui. Et oui, l'Autriche est l'un des derniers pays européens à s'y mettre. L'extrême droite autrichienne ayant été écartée du pouvoir au printemps dernier, la loi a pu être adoptée. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Isorias l'a constaté à Vienne.
Depuis 12 ans, Markus Altzinger est l'heureux propriétaire du Raymond's, un bar d'habitués du 6e arrondissement viennois. Mais l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer l'oblige, selon lui, à fermer.
Il y aura forcément des nuisances sonores à l'extérieur du bar et les amendes montent jusqu'à 10 000 euros. Ce n'est pas possible financièrement, c'est pourquoi il vaut mieux fermer. J'espère que la loi sera modifiée.
À quelques rues de là, l'expérience est différente pour Philippe Strottmann, qui gère un bar à cocktail depuis 2 ans. Lui a choisi de bannir la cigarette il y a 1 an, avant d'y être contraint. Et le bilan est positif.
Nous n'en avons pas souffert sur le plan financier. L'atmosphère est plus agréable pour les clients. C'est aussi évidemment meilleur pour la santé, en particulier pour les personnes qui travaillent ici.
L'interdiction est saluée par le président de l'Ordre des médecins, Thomas Tsekerech, mais ce dernier prévient, d'autres mesures sont nécessaires en Autriche, 3e pays européen où l'on fume le plus.
25% des Autrichiens fument régulièrement et 15% des jeunes. Nous devons donc faire beaucoup plus de prévention, commencer dès la maternelle et continuer durant tout le parcours scolaire.
Chaque année en Autriche, plus de 13 000 personnes meurent de maladies liées au tabac.
Et il vaut mieux éviter le tabac lorsque l'on veut courir un marathon. Le prestigieux marathon de New York, 49e du nom, aura lieu ce dimanche. 42 km et 195 mètres pour les plus courageux des coureurs. Mais qu'est-ce qui les motive? France Culture s'est posé la question pour le grand reportage de ce vendredi. Guillaume Batin a pour cela interrogé Pascal Sylvestre, journaliste et auteur du livre « Marathon ». Il y voit une quête quasi spirituelle dans le marathon.
Souvent, les coureurs se parlent ou échangent dans les premiers kilomètres. Et puis au fil du temps, au fil des kilomètres, le silence se fait. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, bouleversé même. J'ai des souvenirs de ces marathons où au 30e kilomètre, on était 4, 5, 6, 10 parfois. Parfois 2, je me souviens avoir traversé le Queensboro Bridge avec un jeune Français qui s'appelait David, un petit Breton. C'était son premier marathon de New York. Les ponts à New York sont les seuls endroits où les spectateurs, les supporters, j'allais dire, ne sont pas admis. Donc, c'est les seuls moments de la course où on est seul. Et donc c'est le seul moment où il y a un vrai silence. En plus, c'est tellement majestueux, on a Manhattan devant soi et on sait, mais lui, le petit David ne le savait pas, que quand on arrive de l'autre côté, quand on entre dans Manhattan sur la première avenue, là c'est un petit peu, pour vous donner un ordre d'idée, l'Alpe d'Huez un jour d'étape de Tour de France. C'est-à-dire que on est porté par une marée humaine et j'avais dit au petit David: attention, David, n'accélère pas, parce que forcément tes jambes, tu vas avoir envie d'aller plus vite. Et évidemment, il a été plus vite, et je l'ai retrouvé ensuite plus tard, juste avant l'arrivée. On a fini ensemble, mais ce silence dans l'effort, notamment sur le Queensboro Bridge, mais par exemple à Paris, qui est un marathon difficile aussi parce que les derniers kilomètres se font dans le bois de Boulogne. Donc, faut le dire quand même, dans un désert absolu. Donc ces kilomètres entre nous, j'allais dire, vraiment entre nous, entre coureurs, sont extrêmement précieux.
Court toujours la folie du marathon. Ce grand reportage de Guillaume Batin sera diffusé ce soir sur France Culture à partir de 17h. Il est réalisé par Emmanuel Faucillon et sera suivi d'un débat avec Tara Schlegel. Et c'est sous la pluie que les quelques coureurs téméraires sortiront aujourd'hui en France métropolitaine. Humidité et grisaille sont au programme, sous des températures qui remontent un petit peu. Comptez ce matin 10 degrés à Lille et Strasbourg, 13 à Paris et Lyon, 17 degrés à Nantes et 19 degrés ce matin à Bastia-Hervé.